السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مش فرير مش سور ان اسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a donné la possibilité d'être présents ce soir dans la salat, dans cette masjid, pour l'accomplissement de salat al-Isha, qui est le premier wajib, le premier pilier de l'islam. La prière que nous accomplissons 5 fois par jour, c'est la base qui permet aux croyants, c'est le socle qui permet aux croyants d'établir régulièrement, de façon quotidienne, sa relation avec Allah, avec Dieu. Parce qu'un cœur qui n'est pas habité par l'amour et la crainte de Dieu, c'est un cœur mort. Et pour que le cœur du croyant connaisse son épanouissement et son élévation spirituelle, la meilleure des choses, c'est de passer par l'obligation qui revient de façon la plus fréquente dans notre religion, c'est l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Le croyant qui s'est habitué à prier 5 fois par jour, le chiffre 5 parfois fait peur. Pour des personnes d'autres confessions, quand on parle de 5 prières par jour, ça peut choquer, on peut se dire comment est-ce qu'on peut donner du temps, comment est-ce qu'on peut se libérer pour le culte 5 fois par jour. Ben, honnêtement, lorsque le croyant prend cette habitude de se prosterner, de faire le sijda, de poser son front sur le sol devant Dieu, devant Allah l'unique, je vous assure que la quiétude, la sakina, la tranquillité, la fraîcheur qui envahit les cœurs atteint un tel degré que le simple fait de ne pas pouvoir répondre présent à une prière, à une prosternation, ça crée un vide dans le cœur. Autant nous avons besoin des prières pour accéder au paradis, ça c'est quand on se projette vers l'au-delà, mais autant on a besoin de nos prières pour trouver l'apaisement de nos cœurs. Parce que nous vivons une vie très speed, très compliquée, parfois très stressante. Nous vivons parfois des périodes de crise, des périodes de difficultés. Nous vivons un monde qui est différent de celui des ancêtres, des personnes avant. Mais subhanallah, la chose qui apaise réellement le cœur du croyant, qui nous permet de comprendre chaque pas qu'on fait, où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient et quel est l'objectif, c'est vraiment l'accomplissement des prières. Ce n'est pas pour rien si ces prières ont été accordées à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne. Les 5 prières avaient été accordées à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam directement par Allah lors du voyage nocturne. C'était un cadeau direct qui n'est pas passé par l'intermédiaire de l'ange Jibril, de l'ange Gabriel, parce que c'est vraiment la chose qui a la plus de valeur pour cette communauté. Donc quand on accomplit nos prières, alhamdoulilah, nous remercions Allah, c'est là une faveur de la part de notre Seigneur. Il faut savoir également que après la mort, les étapes qui attendent le croyant après la mort, décrites dans les versets du Coran, décrites dans les textes prophétiques. Dans un des textes prophétiques, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés le jour des comptes, ce sera l'accomplissement des 5 prières. On peut se dire, quel est l'intérêt de rappeler l'importance des prières lors de la célébration d'un mariage? Parce que le mariage, c'est de la joie, le mariage, c'est du bonheur, le mariage, c'est ce qu'on appelle du muhabba, de l'entente, de l'amitié, de l'amour, une complicité qui va naître entre un jeune homme et une jeune fille. Mais le mariage, c'est également de la religion. C'est également une sunna, une pratique de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on s'engage dans une vie de couple, on s'engage à bien sûr aimer, chérir la personne qui partagera notre vie, mais on s'engage également à faire un cheminement vers Dieu, à se rapprocher d'Allah ensemble. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus magnifique que le voyage d'un jeune homme et d'une jeune fille vers leur Seigneur. Avec la prière, on a zappé un petit peu l'introduction, mais la salat, franchement, ça apporte tellement de sérénité que on a besoin de faire le rappel de façon constante. En démarrant ce discours, pour ce mariage, ce nikah, on peut dire que ce nikah, ce mariage est vraiment symbolique. Ce mariage a une particularité, c'est un mariage qui nous remplit le cœur de joie. Comme d'habitude, quand il y a un mariage de la communauté, on est content. Mais là, ce mariage-là, il a un caractère particulier. Parce que c'est l'union entre une jeune croyante, une jeune musulmane dionysienne, Rayhana, et un jeune homme, Jalil, qui est présent. Ça va, Jalil? Tu n'es pas trop stressé? On est entre nous, on est entre frères. On est entre frères, il n'y a aucun stress. Il n'y a que de l'amour, c'est un échange de bonnes paroles. Entre Rayhana et Jalil. Jalil, alhamdoulilah, le parcours de Jalil est magnifique. Allah Azza wa Jal, au-dessus des sept cieux, a décidé de mettre la lumière de la foi dans le cœur de notre jeune frère qui est présent. Et ça, c'est le plus beau présent, le plus beau cadeau qu'Allah peut accorder à un être humain que de prononcer la parole d'unicité de Dieu. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et Muhammadur Rasulullah. Donc ce mariage, symboliquement pour moi, c'est quelque chose de magnifique. C'est également le couronnement, c'est un signe également que notre communauté, la communauté musulmane, est une communauté ouverte. Moi, ça me fait plaisir de voir le nom de famille Ounian. Ounian, on en connaît historiquement, d'accord? On connaît Jabir, on connaît Ziad, on connaît tonton Ounian, on connaît tonton Asim. Alhamdoulilah, c'est des familles bien implantées pour qui on a énormément de muhabba. Mais quand on voit une jeune fille de la famille Ounian se marier avec un jeune homme qui porte le nom de famille Técher, qui à la base n'est pas un jeune musulman, on se dit que subhanallah, notre religion, elle est belle, elle est magnifique. Nous voyons l'universalité de l'islam. Les grands musulmans, les meilleurs parmi les compagnons, ceux qui étaient proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas nés dans l'islam. Ils ont lu l'attestation de foi, la shahada, à un moment de leur vie. Certains avaient 39 ans, comme c'était le cas d'Abou Bakr, le meilleur des compagnons, il avait à peu près 39 ans, lorsqu'il a dit, j'atteste qu'il y a un seul Dieu, Allah, et j'atteste que tu es, ô Muhammad, qui était son compagnon, le prophète d'Allah. Ainsi de suite, les grands compagnons, Omar, Uthman, Ali, il était beaucoup plus jeune, mais les grands noms de notre religion, ce sont des personnes qui, au cours de leur vie, leurs cœurs se sont tournés vers la vérité, vers la lumière, et ils ont lu la shahada. Notre religion, c'est une religion d'amour. C'est une religion où la vérité se transmet de cœur en cœur. Et par rapport à notre communauté, c'est une grande fierté, je le répète et je le rappelle, parce que ça prouve que dans notre islam, il y a une ouverture totale. Il y a une ouverture, et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de contentement que nous accueillons notre jeune frère Jalil. Mais nous accueillons également l'ensemble de la famille Técher. Et que moi, personnellement, je suis très content de voir Monsieur Chossalé, qui était le professeur de beaucoup de jeunes, qui étaient au collège Juliette de Dieu avant, professeur de PS. On est très content. Ce sont des personnes de Saint-Denis. Ce sont des gens qu'on connaît, qu'on côtoie et qu'on accueille avec beaucoup d'amour. On est très sincères. On est heureux de vous accueillir dans la masjid, dans cette mosquée. Et sachez que l'amour qui émane de nos cœurs pour vous, elle est sincère. Jalil, en lisant la shahada, en lisant l'attestation de foi, tu es devenu notre frère. Sache que Rayhana sera ton épouse dans quelques instants. Tu seras heureux avec Rayhana comme épouse, oui ou non? Mashallah. Jabir sera ton beau-frère. Tu seras heureux d'avoir un beau-frère comme Jabir. 1m80, 85 kilos quand même. Qui sait tout Shaoula, mon frère. D'accord, marche avec Jabir, il est tranquille. Mais l'ensemble de la Jamaat, c'est-à-dire des personnes qui sont présentes, nous serons tous tes frères parce que nous sommes unis par le lien de l'unicité de Dieu. Et cette masjid, cette mosquée, c'est ta maison. Cette mosquée, elle t'appartient parce que dans ton cœur, tu as l'amour pour Dieu. Ça, c'est toute la beauté, l'amour qu'il y a à travers la shahada. Et cet amour, l'amour du divin que notre frère Jalil a connu, ben cet amour, elle va se décupler parce qu'il y a un autre amour qui va naître et qui est en train de fusionner deux cœurs, c'est l'amour entre Jalil, Inch'Allah, et Rayhana, qu'on va célébrer dans quelques instants par les liens du Nikah. Chers frères, en l'islam, ce qui fait la particularité également de notre religion, c'est une religion d'égalité. Une personne qui est née musulman, comme c'est le cas de la majorité des personnes de cette salle, et une personne qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, qui lit la shahada, il y a un an, ou un mois, ou même deux ans, ou 10 minutes, 15 minutes, pour Allah, pour notre Seigneur, ce sont tous des serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de caste dans l'islam. Il n'y a pas les grands musulmans et les musulmans, excusez-moi, lambda, basique. Il n'y a pas les grandes familles, il n'y a pas les familles modestes. Il n'y a que des ibadullah. Il n'y a que des serviteurs d'Allah. Et un hadith magnifique que notre prophète, un texte prophétique, que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahabas à une époque très difficile, les premières années de l'islam à la Mecque, où le racisme était ambiant, les Mécois, on revient à un esprit plus tribal, il y avait les chefs de tribu, il y avait les grandes familles, ce qu'on appelle dans la société française la noblesse. Et ceux qui n'appartenaient pas aux grandes familles, on les considérait comme les tiers-états, hein, des gens qui n'ont aucun intérêt, leur opinion ne vaut rien, même s'ils ont de l'argent, mais du moment qu'ils n'ont pas le sang, entre guillemets, noble, le sang bleu, ils n'apportent rien à la société. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le message de l'islam, a montré que, ô croyants, vous êtes tous égaux devant Allah. Il y a une parole qui est magnifique. Je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme, du citoyen, se sont largement inspirées. Les thèses de Napoléon Bonaparte se sont largement inspirées de ce texte prophétique que devant Dieu, le blanc, le noir, le ahmar, littéralement ahmar c'est rouge en arabe, mais ahmar c'est celui qui a la peau très foncée, un peu comme les Asiatiques, les Indiens, la peau très foncée mais sans être africain. Le blanc, donc le noir ou le ahmar, celui qui est très la peau foncée, ils sont égaux devant Allah si ce n'est pas at-taqwa, si ce n'est pas la piété. Et dans un autre texte prophétique, « Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum » Allah, notre Seigneur, ne regarde ni votre apparence, ni vos origines. On pourrait détailler plus, ni votre situation. Mais Allah regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. C'est-à-dire que dans notre religion, il y a l'égalité parfaite entre les serviteurs d'Allah. Quand nous prions, nous nous alignons sur des rangs. Et les rangs sont accessibles, les soufouf, comme on dit en arabe, les saf, sont accessibles à tout le monde. Dans un rang, on a des personnes aisées, on a des personnes démunies, on a le chef d'entreprise, le patron, on a son employé, on a tout le monde, parce que nous sommes des ibadullah, des serviteurs d'Allah. Et comment ce verset est magnifique? Inna akramakum indallahi atqakum. Les gens les plus aimés, les plus honorés auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus pieux. C'est-à-dire Allah, notre Seigneur, regarde uniquement l'amour pour Dieu et la crainte d'Allah, la crainte de Dieu qu'il y a dans le cœur de chaque personne. Donc Jalil, ces valeurs-là, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toute ta vie, Inch'Allah, toi et ton épouse Rehana, vous allez apprendre la religion. Vous allez découvrir la religion ensemble. Et la religion, elle est vaste. Il y a énormément de choses à apprendre. Nous avons fait des études, nous sommes des imams. On a fait des années d'études. Mais lorsqu'on se réfère au livre, on se rend compte que notre connaissance est un millionième de la connaissance religieuse. On a un voyage spirituel magnifique à faire. Ton voyage à toi commence à partir, Inch'Allah, de ce mariage. Mais si on veut simplifier cet apprentissage de la religion, on pourrait dire que oui, il faut apprendre les prières, il faut apprendre la lecture du Coran, on est entièrement d'accord. Mais j'aime quand une personne découvre la religion, j'aime orienter ses jeunes frères et ses jeunes sœurs vers quelques versets clés. Et ces versets, très souvent on les récite, très souvent les discours, on les met en avant. Mais ces versets-là, c'est tellement important, profitable pour celui qui a accepté l'unicité d'Allah, il y a quelques heures, tout comme celui qui est né musulman. On a constamment besoin de travailler ces versets. On peut se limiter à 3 ou 4 versets du Coran. Premier verset, je lis le verset et Jabir va traduire. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Jabir, tous ces programmes, tu écoutais quand même. Allons, monte à ton beau-frère que tu maîtrises. Ziyad, ça, c'est un patron. Nous avons créé les djinns et les êtres humains uniquement pour l'adoration d'Allah. Si le croyant s'arrête quelques instants tous les jours sur ces versets, je vous assure qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts. Il n'y a pas besoin d'aller à l'Est, à l'Ouest, l'Orient, l'Occident pour apprendre la connaissance religieuse. On se focalise sur ces versets clés et j'arrive à trouver le juste équilibre. J'arrive à trouver l'équilibre spirituel, l'équilibre psychologique également. Je ne sombrerai jamais dans le matérialisme, parce que je sais qu'en finalité, si je suis sur Terre, c'est ça la grande question des philosophes, siècle des Lumières, siècle de l'obscurité, 16e, 17e, 18e, qui sommes-nous, où allons-nous, quelle est notre destinée, pourquoi avons-nous été créés? Très simple, Allah nous a créés pour son adoration. Quand le cœur penche vers les passions, les pulsions, quand le cœur penche vers les péchés,
quand on finit par s'attacher au bien de ce monde, il n'y a rien qui détruit plus le cœur d'un homme ou qui sépare les frères et les sœurs, les familles, que les biens terrestres. Lorsqu'on sent que notre cœur penche vers les biens de ce monde, vers les biens terrestres, je n'ai qu'à me souvenir que Allah, que Dieu m'a créé pour faire son adoration. Ce qui veut dire qu'Allah n'attend pas de moi que je monte des bâtiments, que j'ai plusieurs comptes en banque, que je conduise telle ou telle voiture ou que j'ai autant d'argent. Non, Allah attend de moi, Allah attend de chaque être humain qu'il devienne un pieux serviteur de Dieu. Donc déjà, si on se focalise sur ce verset, on comprend le but de notre existence. Deuxième verset, je te donne 4 cadeaux ce soir. Ça, c'était le premier cadeau. Le deuxième cadeau, lorsqu'Allah dit dans le Coran, « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » De ce verset, Allah Azza wa Jal révèle à l'ensemble de la race humaine jusqu'à la fin du monde, rappelle aux hommes que leur vie, leur existence appartient à Dieu. C'est Allah qui nous a donné la vie et c'est Allah qui reprend la vie. Et durant ce laps de temps entre le moment où tu es né et le moment où tu vas mourir, le temps qu'Allah t'a donné, consacre-le à l'adoration de ton Seigneur, sois un serviteur reconnaissant parce que nous appartenons à Allah. Troisième verset, un verset qui nous rappelle un peu, qui nous met en garde contre un futur qui est presque une fatalité pour chaque être humain. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Fais l'adoration de ton Seigneur, selon le commentaire des Mufassirin, jusqu'à la mort. Que je comprenne que, comme on a dit tout à l'heure, le but de mon existence, c'est l'adoration de Dieu, l'adoration d'Allah. L'adoration de Dieu, ce n'est pas périodique, ce n'est pas le ramadan, ce n'est pas le pèlerinage, non. C'est toute ma vie et au fur et à mesure que tu vas apprendre la religion, tu vas réaliser que se prosterner devant Allah, devant Dieu, c'est un acte d'adoration. Mais sourire à son frère musulman, c'est un acte d'adoration. Donner quelque chose à sa femme, offrir un cadeau, un présent à sa femme, c'est un acte d'adoration. Obtenir un sourire de farah, de contentement de sa maman ou de son papa, c'est un acte d'adoration que nous n'imaginons pas la portée. Tout ça, c'est la vie du croyant. Faire en sorte que dans chaque action, dans chaque parole, je recherche le contentement divin et je fais en sorte que Allah soit satisfait de moi et ensuite l'ensemble des gens soient contents et satisfaits de moi parce que je suis dans l'adoration d'Allah. Et enfin, c'est pas enfin, mais le quatrième verset, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » un peu funeste comme verset lors d'un mariage, mais c'est un rappel nécessaire. Chaque âme, Bilal, ça c'est des familles de savants ça. Chaque âme goûtera à la mort, mashallah. Tu es bien entouré. Chaque âme goûtera à la mort. C'est une réalité. Combien de personnes le matin se réveillent et pensent à ce verset? Et quand on dit que chaque âme goûtera à la mort, est-ce que dans le verset, il y a un âge défini? Est-ce qu'il est précisé chaque âme goûtera à la mort à partir de 75 ans? À partir de 80... Allah, wallah, il y a des gens qui meurent à 85 ans, il y a des gens qui meurent à 25 ans. Il y a des enfants qui meurent à 8 ans. Tout ça, c'est la décision d'Allah. Sachant qu'il y a un retour imminent vers Dieu, vers Allah, et que nous ne connaissons pas les termes de l'échéance, nous devons toujours être prêts. Un bon musulman, un bon croyant, c'est celui qui a su parfaire sa relation avec Allah. Et c'est celui qui a su parfaire sa relation avec ses proches. Faire en sorte que tes parents soient toujours satisfaits de toi, ta famille, tes proches. Faire en sorte que personne n'ait quoi que ce soit te reprocher. Faire en sorte qu'on ne doive de l'argent à personne. Faire en sorte qu'on n'ait jamais offensé, blessé, vexé, quiconque. De telle façon que si l'ange de la mort à cet instant vient et reprend l'âme de notre frère ou de moi ou de n'importe quelle personne, qu'on retourne vers Dieu, vers Allah pour aller contre le jour du jugement dernier, on sait qu'on a fait du mal à personne et nous savons que notre relation avec Allah, ben on l'a fait de notre mieux. Ensuite, nous sommes pécheurs. Ce qu'on n'a pas pu faire, nous devons être conscients que notre Seigneur est pardonneur et miséricordieux. On pourrait développer l'ensemble de la religion tellement cette notion d'amour, de pardon de notre Seigneur, de cadeau de notre Seigneur, ce sont des notions que nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de développer. Donc, Inch'Allah, fais l'intention dès maintenant de commencer un travail, Inch'Allah, d'apprentissage avec ton épouse auprès des savants, des imams de Saint-Denis ou quel que soit l'endroit, également fréquentant les différentes assemblées religieuses que nous faisons régulièrement pour apprendre la religion. Et tu te rendras compte que la connaissance religieuse, c'est quelque chose qui remplit le cœur de joie et de tranquillité. Mon cher Jalil, mon frère Jalil, ton épouse, elle présente, elle assiste, et à ta future, donc à mademoiselle Rehana, subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers le mariage que les époux, l'homme et la femme, se doivent de se soutenir mutuellement, de s'encourager pour se rapprocher de Dieu. Je pense qu'on a suffisamment développé à travers ces versets. On a compris que le mariage, c'est aimer sa femme, mais le mariage, c'est faire en sorte que moi et mon épouse, en même temps que nous partageons cet amour, nous essayons d'orienter un amour spirituel vers notre Seigneur, parce que c'est cet amour du Seigneur qui va apporter la joie, la baraka, la bénédiction de notre vie. Mon cher Jalil et mademoiselle Rehana, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné à travers ses discours, mais également à travers sa vie, comment un homme doit agir avec son épouse. Quelle doit être la relation d'un mari avec sa femme? Lorsqu'on étudie la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir que c'est un prophète. Nous savons également que c'était un chef. C'est celui qui dirigeait les gens. Il gouvernait la ville de Médine. Il savait accueillir les personnes, les orienter vers le droit chemin. Mais c'était également un père de famille et un époux exemplaire. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, là on parle du quotidien, on va pas vers des discours de sommet, des discours très complexes. Au quotidien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimait Aïcha, radiallahu anha, son épouse, il l'appelait pas par son prénom, chose qu'on rappelle à chaque mariage. Il l'appelait toujours, pas en arabien un terme, mais en créole on va dire par un petit nom gâté. Ce qui veut dire que même dans la façon de s'interpeller, notre prophète nous a montré que l'homme se doit de manifester de l'amour quand il interpelle son épouse. Alors Bilal, retiens-tu non gâté pour madame. Nada déjà, on ne veut pas connaître c'est quoi, mais ça c'est très important. Quand on appelle sa femme, il faut que, dès les premiers mots qui sortent de notre bouche, elle sent l'amour, elle sent l'affection. Et ça, on le dit toujours, l'amour c'est pas la Saint-Valentin. Ça c'est construit, ça c'est un amour commercial. Un jour de l'année, on va offrir des fleurs et des chocolats, et puis les autres jours, s'il n'y a pas d'intérêt, la fête des mères, c'est pas le 31 mai, la fête des mères, c'est toute l'année. La Saint-Valentin, c'est toute l'année. L'amour qu'on doit donner aux personnes qui nous entourent, ça fait partie des actes d'adoration qu'on se doit de travailler au quotidien. Lorsque notre prophète devait prendre une décision importante, il consultait sa femme. Il y a quelques semaines, on avait parlé de la révélation de l'ange Gabriel, la sourate Iqra. À Mecca, on est à une époque où les chefs de tribu de la Mecque considéraient Mohammed comme étant le meilleur parmi eux. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu s'entretenir avec les chefs mécois, des personnalités du monde arabe, on pourrait dire de la Mecque, pour voir comment interpréter ce message. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'avis de son épouse Khadija radiallahu anha, qui saura lui donner les bonnes réponses. Lors du pèlerinage, on appelle ça le Umrah, en l'an, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 de l'Hégire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu une situation un peu conflictuelle avec certains de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va consulter également son épouse pour savoir quelle décision prendre, comment agir. Ça, c'est une qualité qui doit être présente chez le mari. Il y a des fois où certaines personnes disent que lui, il a besoin de parler à son épouse, toutes affaires, il a besoin de demander son madame, par une petite femme, il n'est pas d'ici de lui-même. Bien au contraire, la plus grande manifestation d'amour, quand on parle de mariage, c'est qu'on partage le cœur d'une personne, on partage un foyer, on a partagé sa vie avec quelqu'un. Mais quand on a donc des décisions importantes à prendre, je me dois de partager mes idées, mon approche des choses avec mon épouse. Ça, c'est un lien sincère de le mariage qui doit être omniprésent dans la vie de l'homme et de la femme, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait enseigné. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à table, mangeait avec sa femme, il buvait de le même récipient. Et lorsque Aïcha poser ses lèvres à un endroit, le prophète s'est forcé de prendre le récipient et de poser ses lèvres au même endroit pour montrer que toi et moi, ô Aïcha, nous ne formons qu'une seule personne. Lorsque le prophète mangeait avec son épouse, et ça c'est important de partager le repas avec son épouse, pas comme notre époque, chacun mange sous sa nuit dans son coin, on partage le repas dans un plat commun. Le prophète, de temps en temps, il prenait une bouchée de nourriture, il mettait dans la bouche de son épouse. Ça, c'est un signe de ça, c'est une manifestation d'amour, une manifestation de ce qu'on appelle de muhabba, de la mawadda, qui doit exister entre l'homme et la femme et qui existe à chaque moment. Le dialogue, on avait rappelé lors du dernier mariage, qu'une fois Aïcha, on va garder l'exemple de Aïcha, elle a pris énormément de temps pour raconter au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un récit qu'elle avait entendu. Honnêtement, entre nous, vous revenez d'une journée de travail, vous êtes fatigué. Madame vient vous parler d'une histoire qui vous prend la tête, qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin, qui est remplie de péripéties. La seule chose que vous souhaitez, c'est la fin de l'histoire. Parce qu'on a besoin de se détendre, parce qu'on a passé une journée difficile. Ça, c'est humain, ça. Là, il n'y a plus une question de confession, on croit en qui, on croit... Non, humainement, à un moment donné, on a la tête pleine, on a besoin de poser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre à Aïcha et montre à l'ensemble des croyants que l'homme se doit d'être attentif aux propos de son épouse. On partage tout. Elle a un vécu, elle a une expérience, elle a quelque chose qu'elle aimerait partager. Je suis là, je suis sa moitié, c'est dans tout le sens du terme. Je suis là, je t'écoute, et moi aussi j'aurai des choses à dire, et on partage. Et de cette façon, deux caractères qui peuvent parfois être opposés, quand on vient de deux familles différentes, on est parfois de deux cultures différentes, ce qui va faire la richesse de ce couple, c'est que on va prendre le meilleur des deux familles et unir dans un couple. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah également, lorsqu'il y aura des naissances, lorsqu'il y aura des enfants, ce sera le meilleur des deux éducations, le meilleur des deux familles qu'on va retrouver au sein de cette famille, au sein de cette nouvelle génération. C'est ça le partage, ça c'est le résultat, ça c'est l'aboutissement de l'amour dans notre religion. Et on parlait de prière, on va clôturer avec la prière et l'amour. À chaque prière, 5 prières par jour, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait sa maison pour venir faire la prière, il prenait soin d'embrasser son épouse avant chaque prière. Et là je me demande, et là on peut réfléchir soi-même, qui est-ce qui fait ça? Qui prend soin, à chaque fois qu'il quitte sa maison pour venir à la mosquée, d'embrasser sa femme et donc de dire une petite parole ou un geste d'amour, d'amitié? Ça c'est important. Parce que ce geste-là, pour Allah, ça a énormément d'importance. Parce que le prophète, et on pourrait conclure l'ensemble de ces gestes prophétiques par ce hadith magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sachez, ô musulmans, que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont les meilleurs akhlaq, les meilleurs comportements. » Et le prophète continue. « Et les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leur famille, femmes et enfants. » Et sachez, ô musulmans, que moi, c'est le prophète qui parle, Mohammed, je suis celui qui a le meilleur des comportements avec sa famille. Ce qui veut dire, prenez-moi comme modèle, prenez-moi comme exemple. Très souvent, on se dit qu'on va imiter le prophète dans sa façon de s'habiller, dans la façon de prier, mais également dans la façon d'aimer sa femme. On doit apprendre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme un exemple, comme notre modèle. « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا » Dernier conseil. 2 minutes, tu me donnes encore? Je ne connais pas moi. Hein. Jalil, tu as la chance d'avoir tes parents encore vivants. Et pareil pour Rayhana. Donc, les parents, tonton Asimela et son épouse. Et ça, c'est un grand présent de la part d'Allah. Tu sais, dans un des versets du Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça, c'est un des versets basiques du Coran. Dieu a décrété que l'homme ne doit pas adorer autre que lui. Ça, c'est le principe, le monothéisme, le principe de notre religion. Donc ça, c'est un ordre connu. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Dieu a également décrété que l'homme se doit d'agir de la meilleure des façons avec ses parents. C'est-à-dire que juste après l'ordre d'adorer Allah l'unique, il y a l'ordre de bien agir, d'être poli, d'avoir un bon comportement avec ses parents. Ça, c'est un pilier de la religion. Et vous avez, alhamdoulilah, la chance d'avoir vos parents vivants. Retiens un hadith, un texte prophétique, lorsque notre prophète Mohammed s.a.w. nous enseigne que le paradis, c'est une métaphore, une parabole, pour ça me dit, le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'auras pas le contentement, la satisfaction de ta mère, Allah ne peut pas t'accorder le paradis. Parce que la satisfaction d'Allah, le contentement de notre Seigneur, nous allons l'obtenir par le biais des actes d'adoration. Mais la satisfaction, le contentement de nos parents, c'est une obligation qui incombe à chaque croyant. Et cela ne peut s'obtenir que par un comportement exemplaire envers père et mère. Ça, c'est un des fondements, une des bases de la religion. Et lorsqu'on pousse un petit peu le verset, on essaie de voir quelles sont les limites. Dans le 15e chapitre du Coran, il y a un verset qui nous interpelle. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Le mot ouf, on appelle ça en français onomatopée. C'est un bruit, c'est un son, ce n'est pas un mot. C'est-à-dire que même ouf, en arabe on dira ouf, en français ou en créole on va traduire de n'importe quelle façon, le signe de mécontentement. Même un signe de mécontentement audible ne doit pas être prononcé par un croyant face à ses parents. Il y a des fois où on n'est pas d'accord, c'est normal. Il y a des clashs entre les générations. Les parents voient les choses d'une façon, nous voyons les choses d'une autre façon. Même s'il y a des fois où on n'est pas satisfait de leur choix, de leur décision, de leur orientation, on ne doit pas laisser les parents entrevoir notre mécontentement, ne serait-ce par un souffle. Parce que il ne faut jamais, jamais, jamais vexer, jamais blesser le cœur d'une maman, ni le cœur d'un papa. Ça, c'est valable pour l'ensemble des êtres humains, quelle que soit la confession des parents. Parce que dans ton cas, Jalil, il y a un verset qui me revient. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Ce verset concerne une personne qui a des parents qui n'ont pas la même confession. Même si les parents n'ont pas la même confession, le Coran ordonne à ce fils ou à cette fille d'agir correctement avec les parents. Parce que c'est cette maman qui t'a mis au monde, c'est ce papa qui a subvenu à tes besoins, qui t'a fait grandir, qui t'a donné l'éducation depuis que on est, subhanallah, un nouveau-né jusqu'à cet âge. La reconnaissance humaine, là on parle de fitra, d'innéité, la reconnaissance en termes d'être humain, c'est d'être bienveillant envers les parents. Donc on va essayer de travailler ça, tu vas essayer de travailler ça avec ton épouse, un cheminement spirituel vers Dieu, inshallah, en étudiant la religion, également développer l'amour au quotidien, développer le meilleur des comportements, être romantique, ça on va pas t'apprendre, les jeunes sont plus romantiques que nous, mais voir c'est quoi le romantisme, entre guillemets, dans l'islam, les gestes d'amour du quotidien. Essayer de travailler ce deuxième dossier, inshallah, et faire en sorte que dans la cellule familiale, tant du côté de la famille Ounian, tant du côté de la famille Téchère, il y ait la muhabba. La muhabba, c'est quoi? C'est l'amour, l'entente, la confiance, qu'il y ait de l'amour qui règne, qui baigne entre les deux familles. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de muhabba, beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, et qu'Allah, que notre Seigneur, remplisse vos cœurs d'amour pour lui, d'amour entre vous et d'amour entre les deux familles, et jour après jour, que vos cœurs soient épanouis. Allahumma amin. Avec, comme objectif final, le verset qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas citer dans un mariage, c'est le verset de consécration. Jabir, ce sera ton tour dans un mois, inshallah. Lorsque Jabir va se marier bientôt, ce verset, c'est lorsque Allah dit le Coran, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ce verset nous fait rêver. C'est lorsque les gens sont dans le paradis, les croyants sont dans le paradis, ils se retrouvent avec femmes, ascendants et descendants. C'est-à-dire avec les parents, mais avec les enfants, les petits-enfants. Ou Aman Salaha, à une condition qu'ils avaient les qualités pour accéder au paradis. Les qualités, c'est quoi? C'est travailler la relation avec Dieu, c'est développer la piété, être quelqu'un de bien. Avec ça, inshallah, avec l'adoration d'Allah, on a cet espoir d'être réunis ensemble dans le Jannah. Et ça, c'est l'objectif final. Que toi et Rehana, inshallah, vous soyez ensemble dans le paradis. Et ce voyage commence ce soir. Allahumma amin, wa man tawfiqi illa billah. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre. Ces paroles sont valables pour les nouveaux mariés, mais également pour chaque personne de l'assemblée. Qu'Allah azza wa jal renforce l'entente dans tous les couples. Et que si dans l'assemblée, il y a des jeunes qui ne sont pas mariés et qui sont en âge de se marier. Qu'Allah ouvre leur destin et que bientôt ils trouvent l'épouse idéale. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.